Vous écoutez Résonance sur les ondes d'Univers 99.9 et le www.radio-univers.com. Pour cette édition de Résonance, eh bien, nous recevons Gilles Amalvi. Bonjour.
Bonjour.
Gilles Amalvi, vous êtes écrivain, dramaturge, vous participez à différentes pièces chorégraphiques dans le monde de la danse. Vous avez écrit en tant qu'écrivain une fable humaine, High Boom, qui sont parus au Quartanier. Vous avez écrit aussi de nombreux textes pour différentes revues de poésie, Moritu Russe, La Mer Glacée. Vous êtes conférencier par ailleurs à certaines occasions, notamment vous avez pu donner des conférences pour le Musée des Beaux-Arts, l'école d'architecture de Rennes, c'est bien ça ?
Le Musée des Beaux-Arts de Nantes, et à Rennes c'est plutôt des cours et des workshops à l'école d'architecture de Rennes.
Mm-hmm. Et dans votre champ artistique, on peut le dire, vous êtes créateur sonore, vous explorez différentes voies dans la rencontre entre les textes, la voix et les matières sonores. La matière sonore, on peut le dire comme ça, créateur sonore ?
Oui, tout à fait.
Vous avez eu notamment des projets qui s'intitulent Orphée, Robot de combat, poème Concerto Live, Cranax, qui est un feuilleton radiophonique, ou encore Radio Épiméthée. Et puis, par ailleurs, vous avez été l'auteur, le producteur d'une série d'émissions intitulée Tes chansons. Tes chansons qui sont un projet de création radiophonique imaginé par vous, parti dans les rues de la ville de Rennes, avec un vélo studio nomade à la rencontre des habitants où vous avez accueilli leurs paroles, leurs témoignages et leurs chants autour de leurs chansons préférées, de leur musique préférée. Une émission, Tes chansons, que l'on aura le plaisir de retrouver sur les ondes d'Univers et sur le www.radio-univers.com pendant tout le mois de mars, les mercredis à 20h. À l'occasion notamment du Printemps des Poètes de cette édition 2025. Tes chansons en podcast aussi, que l'on pourra retrouver aussi sur le site de la radio, le www.radio-univers.com. Tes chansons, est-ce que vous pourriez tout simplement nous parler de ce projet qui a été initié avec l'école d'architecture de Rennes, me semble-t-il.
L'école d'architecture de Rennes et principalement le centre d'art La Criée, à Rennes, qui a été le coproducteur de ce projet. En fait, au départ, c'était une boucle, on va dire, une boucle comme je les aime en général. Au départ, il y avait un texte qui s'appelait Des chansons, qui était un poème. Un poème mis en son et mis en musique qui avait été présenté lors du festival Autre Mesure, qui est un festival de musique contemporaine qui existe toujours. Et lors de ce festival, ça devait être en 2017 ou 2018, je ne sais plus, j'avais présenté cette lecture de Tes chansons, qui était pour moi une manière d'explorer les refrains qui nous hantent. Mais là, d'un point de vue plutôt personnel, j'allais creuser dans mes propres ritournelles. Et évidemment, le texte était directement articulé. En fait, il y a certains textes que j'écris et que j'essaye ensuite de mettre en musique. Et il y a certains textes qui naissent directement comme des projets faits pour être dits et pour être accompagnés par une matière sonore. Tes chansons en faisaient complètement partie. Donc il y avait une matière sonore qui était principalement composée de basses jouées en live et de différentes compositions électroniques. Et ces compositions poursuivaient cette espèce de hantise autour des ritournelles qu'évoquait le texte lui-même.
Mmh.
Donc j'avais présenté ce texte lors du festival Autre Mesure, qui avait, en fait, le principe du festival, c'est de faire entendre la musique contemporaine dans des endroits où on n'a pas forcément l'habitude de l'entendre. Donc c'était un super projet, enfin c'est un super projet qui du coup montre des concerts de musique contemporaine au Musée des Beaux-Arts de Rennes, au Centre d'Art La Criée, au FRAC, enfin il y a plein d'autres lieux que je n'ai pas en tête. Et lors de ce concert qui avait eu lieu à La Criée, c'était un focus plus sur la poésie dans son rapport à la musicalité. Donc il y avait moi, mais il y avait aussi Jérôme Gamme par exemple, qui est un poète qui fait un travail vocal assez extraordinaire. Et en fait, assez vite, dans ma tête, après avoir fait cette performance, j'ai eu envie d'inverser le spectre, de retourner en quelque sorte le micro de l'intérieur vers l'extérieur, et d'aller m'intéresser à comment ça marchait dans la tête des autres. Ce principe de ces musiques qui nous trottent dans la tête. Je ne suis évidemment, moi j'ai une sorte de jukebox mental, mais je ne suis évidemment pas le seul à avoir en permanence mon jukebox mental. Et je voulais savoir un peu comment ça fonctionnait pour les autres, mais les autres vraiment dans un sens très large, tout le monde. Tout le monde a des chansons préférées, tout le monde a des rapports singuliers à ces objets que sont les chansons, qui ont pour particularité d'être à la fois des objets totalement communs. Un tube, c'est quelque chose que partagent des millions de personnes, et en même temps chacun en a sa propre version qui lui est absolument personnelle. Et c'est ce paradoxe qui est à l'origine donc du deuxième volet de tes chansons, qui est le volet entre guillemets documentaire, et pour lequel effectivement il y a eu tout un processus du coup de fabrication, puisque j'ai fait fabriquer
très concrète pour le coup, voilà. Dans la mesure où vous aviez fait construire et participé à la construction d'un studio nomade. Est-ce que vous pourriez nous en parler?
Oui, tout à fait. Alors là, c'était une rencontre avec un étudiant qui était lui-même étudiant en école d'architecture spécialité design, qui s'appelle Erlé Marek, et qui m'a accompagné à la fois dans la conception et dans la construction de cet objet, qui était donc un studio de radio qui devait pouvoir être tracté par un vélo, pour pouvoir non pas apporter la parole, mais recueillir la parole dans les rues. Et vraiment, le principe de tes chansons dans ce volet documentaire, c'était de me balader, de me poser, de m'arrêter avec mon étrange objet portatif qui du coup attirait un peu l'attention et la curiosité des personnes qui passaient par là, et ensuite en fonction des personnes qui disaient: ah mais c'est quoi cette drôle de carriole, est-ce que c'est un food truck, est-ce que c'est... et je leur disais bah non, c'est une sorte d'émission de radio autour de la question des chansons, et si vous le souhaitez vous pouvez partager un petit moment avec moi qui pouvait être entre 5 et 15 minutes. Et effectivement, ce moment était en général un premier moment plutôt de témoignage, où je, par une série de questions, j'essayais d'amener les personnes qui s'arrêtaient à me dévoiler quelque chose de ce rapport à la chanson, qui est un rapport qui va dans beaucoup de directions différentes, à la fois la question de la transmission, les chansons qui nous ont été transmises par nos parents, nos grands-parents, les chansons qu'on partage avec des amis, et aussi évidemment tous les rapports plus intimes aux différentes étapes de la vie, l'enfance, l'adolescence, où on va se former ses propres goûts, justement, où on commence à aimer ses artistes, enfin on a ses artistes préférés, à l'âge adulte, quand on est plus âgé, enfin il y a vraiment autant de rapports à la chanson qu'il y a de temps dans l'existence. Pour moi, c'était vraiment effectivement comment est-ce que la chanson fait un nouage, ce que je pourrais nommer un nouage subjectif, hein, c'est qu'il y a quelque chose de ce qu'on est ou de ce à quoi on s'identifie qui vient se cristalliser. C'est d'ailleurs Gilles Deleuze, le philosophe, qui est en introduction dans le générique de l'émission Tes chansons, on l'entend, qui parle de cet objet qu'est la ritournelle, qu'il a beaucoup étudié lui en tant que concept philosophique, et qu'il désigne comme un cristal de temps. Donc c'est une sorte de de cristallisation qui vient capturer à la fois des moments du temps, parce que les chansons ont aussi cette espèce de pouvoir de catalyseur, où quand on réentend je ne sais pas, 15 ans après une chanson qu'on a beaucoup écoutée quand on était enfant, par exemple, tout d'un coup, ça va nous faire ressurgir des souvenirs, des états, comment est-ce qu'on se sentait à ce moment-là. Donc il y a vraiment la dimension, entre guillemets, proustienne de la chanson.
C'est-à-dire comment est-ce qu'elle... La Madeleine, voilà, de Proust, ou de la boule de cristal, d'une certaine manière aussi.
Tout à fait. Mais donc voilà, c'était ça que je voulais un peu hypothétiquement essayer de capturer. Et il se trouve que donc, l'expérience a été assez fructueuse. Puisque cette carriole du coup posée sur l'esplanade Charles de Gaulle, dans le parc du Tabor, devant l'école d'architecture, enfin à plein d'endroits différents, que je baladais avec mon vélo, a attiré en fait des personnes extrêmement variées. Et ça, c'était aussi un peu un des paris de ce projet qui a tout à fait fonctionné. Ça pouvait être un enfant qui était avec sa mère, un groupe de jeunes adolescents qui sortaient du collège lorsque j'étais devant l'église. Enfin bon, bref. Mais donc j'ai vraiment eu... Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, quand il y a un groupe d'amis qui évoquent leur morceau de rap préféré, par exemple, qu'ils écoutent ensemble sur leur enceinte connectée, ça ne va pas du tout être la même chose que lorsque j'ai enregistré une dame à la sortie d'une répétition de chorale, par exemple, où, enfin, il y avait vraiment plein d'exemples très spécifiques qui traitaient du blues, de la musique régionale. Et quand j'évoque l'enceinte connectée, c'est que j'avais aussi envie d'aller questionner comment est-ce que les usages du rapport à la chanson ont énormément changé au gré aussi des techniques de reproduction et de diffusion de cet objet qu'est la culture populaire musicale, avec évidemment aujourd'hui beaucoup plus par le biais des smartphones que par le biais du disque. Enfin, y a aussi toutes ces pratiques de comment est-ce que la musique se partage, s'échange, comment est-ce qu'elle devient un objet absolument personnel par le biais de micro-communautés. Enfin, il y a l'objet chanson tout au long du XXe siècle et aujourd'hui du XXIe siècle ne se consomme et ne se partage plus de la même manière qu'en 1980.
Eh bien, on va écouter un extrait de cette émission Tes chansons que vous avez réalisé donc dans les rues de Rennes à la rencontre des habitants dans leur rapport justement aux chansons.
Qu'est-ce qu'on voit dans le cristal ? Ce qu'on voit dans la boule du cristal, c'est le temps non chronologique. Tout cristal révèle le temps. Donc, il y a des cristaux sonores de temps, la ritournelle. C'est le cristal sonore de temps par excellence. Une petite ritournelle. On en est là.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra fou. 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Des chansons. Un projet de Gilles Amalvi en partenariat avec La Criée.
Eh bien, bonjour et bienvenue dans l'émission Tes chansons, un studio de radio itinérant qui va parcourir les rues de Rennes là, pendant une semaine pour aller à la rencontre des gens et les interroger sur le rapport qu'ils entretiennent aux chansons. Là, on se trouve dans le lavoir qui se situe juste à côté de l'école d'architecture. Donc, on a un petit groupe d'étudiants de l'école d'architecture. Alors, la première question que je pose en général dans ce contexte-là, c'est est-ce que vous avez une chanson préférée ? Ah, c'est la question un peu basique, la chanson que vous apporteriez sur une île déserte.
Moi, c'est Clémentine. Ben, moi, c'est plutôt un panel avec plusieurs chansons, mais quelques-unes qui ressortent plus souvent peut-être que d'autres. C'est vraiment les chansons que j'aime bien et pour le coup, ça peut autant ressortir en soirée que l'après-midi, toute seule chez moi. Des fois, ça peut aller en fonction du mood du moment. Si j'ai envie d'écouter une chanson gay qui me donne la pêche, voilà. Si je suis un peu moins gay, ben, j'ai des chansons que j'aime mieux écouter. Mais après, les moments où j'écoute de la musique, c'est peut-être plus quand je suis tranquille, à travailler, par exemple, ou voilà.
Vous êtes toujours à l'écoute de Résonance sur les ondes d'univers. À l'instant, on a pu entendre un extrait de cette émission « Tes chansons » que vous proposez, Gilles Amalvi, à l'écoute sur nos ondes. Une émission que vous avez réalisée dans les rues de Rennes à la rencontre des habitants de Rennes sur leur rapport à la musique et plus précisément à la chanson. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement avec quelles questions vous alliez à la rencontre des gens? Voilà, vous aviez ce studio nomade dans la rue, les gens venaient s'asseoir. Est-ce que vous pourriez nous resituer comment cela se passait? Et ensuite, avec quelles questions vous leur posiez?
J'avais un petit protocole assez simple, où j'avais en gros la question du début et la question de la fin. Mmh. Donc la question du début, je posais toujours la même, qui était « Est-ce que vous avez une chanson préférée ?» qui était une manière de rentrer dans le vif du sujet. En fait, la question telle que je la posais, c'était « Est-ce que vous avez une chanson préférée ?» ou « Est-ce que c'est plutôt une sorte de panel ou de constellation de chansons préférées ?» Et en fait, à partir de là, il se trouve que dans mon travail dans le domaine chorégraphique, j'ai une pratique de l'entretien qui est assez rodée. Donc j'ai l'habitude d'interviewer des artistes sur leur travail. Donc là, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisqu'il s'agit plutôt de suivre le fil des associations qui viennent aux personnes que je suis en train d'interroger. Mais en partant de cette question, ensuite, on dérive. Et j'essaie de vraiment suivre le cours des associations imaginaires qui, donc après, les questions, elles venaient vraiment en fonction des personnes, de ce qu'elles disaient. J'essayais de rebondir. Et ensuite, dans le montage de l'émission, mais ça, c'est quelque chose sans doute que vous connaissez aussi, il y a pas mal un travail d'enlever. Quand on réécoute en général ce genre de travail d'interview, il faut retirer, parce qu'on a toujours l'impression qu'on parle trop ou... Il y avait des personnes par exemple qui étaient plus timides, donc j'étais obligé de broder pour les amener à dire quelque chose, en passant par ma propre expérience, en passant par des choses dans l'actualité. Est-ce que vous connaissez cette chanson, par exemple? Ça, c'est des choses que j'enlève ensuite, parce que j'ai pas envie qu'on entende que ma voix. Mais j'ai vraiment envie de laisser la place aux personnes qui sont interviewées. Mais voilà, c'est principalement en partant de cette question de quelle est votre chanson préférée, de suivre le fil en fait, des associations qui se présentent.
D'accord.
Juste peut-être pour terminer sur tes chansons en tant qu'émission, je voudrais ajouter que à chaque fin d'interview que je réalisais donc dans la rue, je proposais à la personne que je venais d'interroger de me confier, c'est-à-dire littéralement de me chanter a cappella, sans rien, une chanson de leur choix. Évidemment, il y avait des personnes qui ne souhaitaient pas chanter, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est quelque chose justement de très intime, de confier sa voix, et d'autres personnes qui se prêtaient à l'exercice avec beaucoup de générosité. Donc il y avait aussi ces petites capsules où on entend juste des gens qui chantent parfois faux, qui chantent parfois très juste. Et il y a vraiment toute l'émotion de ce que c'est qu'une chanson. Pour moi, c'est aussi beau une personne qui chante une chanson, la chanson qu'elle écoute en ce moment, que d'écouter la chanson elle-même.
Moi, je m'appelle Paul Ragauche. Et je vais pas avoir une chanson à titrer en particulier, mais je vais avoir plus de passion pour, comment dirais-je, de la musique avec un fond parolier assez important, genre tout ce qui va être, c'est un peu bizarre, hein, mais tout ce qui va être Boris Vian, Brassens ou alors Nino Ferrer, une certaine période J'adhère à fond là-dessus. Il y a toute une période sur laquelle je me désintéresse totalement. Et puis à côté de ça, j'écoute beaucoup de rap. Donc je sais pas, est-ce que c'est le rythme, est-ce que c'est la parole, est-ce que c'est l'ambiance que ça dégage, je sais pas trop exactement, mais en tout cas, je pense qu'il y a des gens comme ça qui ont besoin de prendre leur crayon pour marquer des choses en chanson. Mmh. Et c'est une pratique que avec la modernisation des labels et de toutes les grosses maisons de production, j'ai tendance à un peu oublier ce genre de défouloir où le gars, la fille prend un crayon et paf, ça sort. Mmh. Alors que dans des styles un petit peu plus anciens, ou alors des styles actuels un peu plus underground, on peut retrouver justement ce genre de « je suis motivé, j'ai envie d'écrire, alors je sors un album ».
Oui, on est enregistré.
Bon, moi je me présente du coup, donc Athéna Dereau. Pour rejoindre Polo, souvent c'est... Enfin, je veux pas trop généraliser, mais souvent aujourd'hui ce qu'on entend à la radio, de mon point de vue, le fond manque.
C'est un peu tiède.
C'est un peu tiède, tu le dis très bien. En fait, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, je peux être très attachée au texte d'une chanson. Donc, par exemple, pour des chansons un peu rappées, slamées, style, je sais pas en ce moment si vous connaissez, par exemple, Aloïs Sauvage, que j'aime bien depuis un petit moment, et en fait, en ce moment, elle est en train de grimper, de se faire connaître. Mais elle parle assez crûment, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est très joliment dit, mais on sent vraiment qu'elle a écrit ça sur son papier et elle le défend simplement en fait. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, pour autant, je sais pas, soit c'est un flow, soit c'est les paroles, je pense qu'il y a un mix de choses, et puis aussi l'état d'esprit dans lequel on est pour écouter, pour recevoir cet art finalement. Je pense que ça compte beaucoup aussi pour l'apprécier.
Vous nous avez parlé juste avant de la genèse de ce projet et de l'interrogation qui vous animait pour aller à la rencontre aussi des conditions matérielles qui vous ont amené à aller interviewer les gens. En tant que créateur sonore dans votre travail artistique, qu'est-ce qui vous intéressait, qu'est-ce qui résonnait dans votre travail artistique ?
J'aurais envie de dire qu'il y a pas mal de choses assez différentes, mais évidemment la chose première, c'est la question de la voix. Donc il y a ce rapport à la voix qui était déjà présent moi dans mon travail poétique, qui est ensuite devenu un travail de lecture, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc il y a cette première dimension, et après il y a le fait qu'effectivement de poète, j'ai commencé ensuite à créer de la musique pour mettre en son mes textes, mes propres textes. Et ensuite, j'ai pu transformer cette activité, puisque je travaillais par ailleurs, c'était mon activité professionnelle dans le milieu de la danse, où j'écrivais beaucoup de textes et où je faisais effectivement de la dramaturgie pour différents chorégraphes. Et à un moment, j'ai eu envie, et c'est le chorégraphe Paul Pi, avec lequel je travaille encore aujourd'hui, qui m'a donné l'opportunité de réaliser la création sonore d'une de ses pièces chorégraphiques, qui s'appelle Alexandre. Et du coup, j'ai aussi développé une activité de création sonore. Et il se trouve que lors d'une pièce, qui était une pièce de théâtre, pour le coup, enfin, théâtre-danse, on va dire, qui s'appelle Le renard de l'histoire, d'un metteur en scène qui s'appelle Antoine Segarra, qui a été créé en 2021, je crois. Le travail sur cette pièce a été assez complexe, dans le sens où le texte devait s'inventer avec la matière chorégraphique. Et à un moment, en fait, lors d'une des résidences, c'était à Chaumont, si je ne me trompe pas, j'ai pris une guitare et j'ai commencé à composer des chansons en essayant de trouver l'endroit par où du texte pouvait aussi innerver le matériau chorégraphique de la pièce. Et pour moi, ça a été un moment de très productif, parce qu'il y avait le filtre de cette pièce, Le renard de l'histoire, qui parlait selon les mots du metteur en scène, de la hantise du futur, ou de quels étaient nos imaginaires du futur, en quelque sorte, et qui travaillait beaucoup sur la figure du fantôme. Et ça m'a donné une sorte de piste qui m'a permis de composer des chansons. Donc la chanson, mais ça j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler au cours de l'émission, et comme ça une sorte de fil, comme on a pu le voir, il y avait eu ce texte, tes chansons que j'avais mis en musique, puis le volet documentaire de tes chansons en tant qu'émission et travail dans les rues, et puis il y a eu ensuite une sorte de troisième volet qui est l'écriture de ma part de chansons originales.
Deux chansons originales que l'on va pouvoir avoir justement le plaisir d'écouter dans cette émission de Résonance tout à l'heure. Vous parliez de ces trois temps d'une certaine manière et dont le dernier temps était justement d'en arriver à la chanson, à la composition vous-même de musique au sein d'un travail chorégraphique pour le coup. Comment abordez-vous justement cette notion de chanson ? C'est quelque chose qui est de l'ordre de la... Voilà, c'est le mystère un peu de la manière dont émerge une chanson qui vous intéresse et à laquelle vous-même, dans votre travail, vous êtes arrivé.
La question de comment émerge une chanson... Alors en fait, il y a plusieurs... Il m'est arrivé, moi, de composer quelques chansons avant le travail sur cette pièce théâtrale qui s'appelait donc Le Renard de l'Histoire. Mmh. J'ai écrit quelques chansons pour mes filles lorsqu'elles sont nées ou que je leur chantais quand elles étaient petites. Mais c'était quand même extrêmement... c'était peut-être 4 ou 5 chansons en tout et pour tout. Et c'est vrai que le travail sur cette pièce a lancé une sorte de double opération qui était à la fois une opération de composition et d'incrustation des chansons au fur et à mesure que je les composais dans le tissu sonore que j'avais déjà créé pour la pièce, qui était beaucoup de sons abstraits, de matières qui accompagnent la chorégraphie. Donc m'intéresse aussi la manière dont la chanson peut devenir une matière sonore parmi d'autres. Mmh. Mais effectivement, il y a cette question de... Enfin, ce qui m'est apparu assez vite dans cette espèce de temps qui était très étrange. On était en résidence dans cette grande maison à Chaumont. Et j'ai demandé aux techniciens du théâtre, dont je pressentais qu'ils devaient être musiciens, je lui ai dit, t'aurais pas une guitare par hasard ? Il m'a dit, j'en ai plein. Tu veux une acoustique, une classique, une électrique ? Donc j'avais visé juste. Il m'a prêté une de ses guitares folk. Et je me suis, entre guillemets, enfermé dans la cave de la maison pour ne pas déranger les interprètes, le metteur en scène, la créatrice lumière et toutes les personnes qui étaient là. Et je me suis mis à gratter d'abord. Au départ, plutôt pour trouver un tissu instrumental. Et en fait, assez vite, ce tissu instrumental a amené un travail de parole. Donc j'ai commencé à écrire des paroles, à poser des paroles. Et du coup, ça a commencé à fabriquer des chansons que j'ai ensuite ramenées au studio pendant les répétitions, que j'ai commencé à leur jouer, que j'ai commencé à leur transmettre, puisqu'il y avait à l'époque 3 interprètes au plateau, dont une et une très bonne chanteuse, Céline, que je vous ferai peut-être écouter tout à l'heure, qui a une très belle voix. Et qui donc il y avait vraiment ce travail qui était assez assez agréable en fait d'avoir commencé une chanson la veille, de la ramener le lendemain et puis de la partager et puis les interprètes commencent à la chanter. Et il se trouve que dans le processus de la pièce, donc moi j'en ai composé je sais plus une dizaine quasiment de chansons avec leurs paroles, et au final il en est resté 2 ou 3 dans la pièce. Il y en a une qui forme l'introduction, le moment en fait où le public rentre. Il y a une chanson qui est déjà là dans l'espace, et il y en a une deuxième qui ensuite est chantée a cappella par les interprètes et qui est ensuite repris avec un arrangement très électronique dans une séquence dansée très vertigineuse, très entraînante. Mais de toutes ces chansons du coup qui ont été composés pour la pièce. Il y en a assez peu qui sont au final dans le l'objet chorégraphique et théâtral qui a été présenté. Mais voilà, j'avais toute cette matière et il se trouve donc que j'ai eu l'occasion quelques mois plus tard de faire une résidence à la Maison sur Pilotis à Bazouges-sous-Aidé. Résidence pour laquelle j'avais plutôt en tête d'écrire. J'avais pris mes outils pour écrire, mais j'avais quand même pris ma guitare au cas où. Et il se trouve que lors de cette résidence, j'ai assez peu écrit et l'essentiel du temps, j'ai composé des chansons qui sont venues, là pour le coup, et c'est quelque chose que je mettrai en jeu peut-être tout à l'heure, soit du côté d'une mélodie vocale. D'accord. Qui venait en premier. Donc j'avais une sorte de mélodie dans la tête et il fallait ensuite que je trouve avec l'instrument comment l'accompagner. Soit au contraire, en partant de l'instrument, quelque chose qui venait dans la guitare, et ensuite, à partir de cette suite d'accords, de trouver la mélodie vocale, puis les mots qui allaient pouvoir... Et c'est en fait cette espèce de Lego ou de puzzle qu'est la chanson. Alors je pense que si on demandait aux compositeurs et aux compositrices de chansons comment est-ce que fonctionne ce processus, il y aurait autant de réponses que d'artistes. Et en fait, c'est vraiment là pour le coup, dans ce troisième temps, c'est plus là-dessus. Et il se trouve donc à l'issue de cette résidence à la Maison sur Pilotis, alors c'était vraiment extrêmement frais, donc c'était encore pas très abouti, on va dire, mais j'ai fait une sorte de petite forme que j'ai appelée « Comment composer des chansons lorsqu'on n'est pas musicien et qu'on ne sait pas chanter », où j'ai essayé d'expliciter en fait l'ensemble de ces embranchements subjectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce que la guitare est venue, quel rôle est-ce qu'elle est venue jouer pour moi ? Pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de ce rapport à l'instrument à un moment ? Et c'est marrant, parce qu'en ce moment, je suis en train de lire le livre d'un philosophe qui s'appelle Peter Zendi, qui a beaucoup travaillé sur la question de la musique. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Membres fantômes », qui est explicitement sur, justement, qu'est-ce qui circule entre le corps humain et le corps de l'instrument. Quel autre corps se fabrique dans ce rapport-là ? Et évidemment, les musiciens professionnels, ce que je ne suis absolument pas, ont... c'est une question extrêmement passionnante, qui avait été abordé par justement le chorégraphe Paul Pi dans une pièce qui s'appelle In Your Head. Paul Pi, qui a lui-même été d'abord musicien, puis est devenu danseur et chorégraphe, et qui a fait une pièce dans laquelle il propose un quatuor donc de musiciennes d'aller le plus loin possible dans ce que leur corps peut raconter une fois qu'elles se passent de l'instrument. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup l'occasion de discuter avec Else, de ce rapport à l'instrument qui est très viscéral dans le cas des musiciens professionnels qui souvent ont commencé très jeunes et qui pratiquent plusieurs heures par jour, etc. Donc c'est... Moi, j'ai une pratique amateur, aussi bien au niveau de l'instrument qu'au niveau de la voix. Donc c'est comme si je me servais de moi-même comme cobaye, en n'étant pas très assuré ni dans mon jeu de guitare, ni dans ma manière de chanter. Je peux observer in vivo comment est-ce que ça fonctionne, cette apparition d'une mélodie, comment est-ce qu'elle est reprise par l'instrument. Et ensuite, évidemment, il y a encore cet autre temps qui est tout aussi passionnant, qui est le temps de l'arrangement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ajuste le morceau guitare-voix, on n'en est qu'un dixième du processus qui peut éventuellement mener à la création d'une véritable chanson.
Il y a la candeur justement aussi de l'autodidacte et de cette pratique amateur, mais qui est aussi réflexive par rapport à la manière dont se formule la chanson pour le coup. Juste une question, est-ce que je me mets à votre place quand vous posiez la question aux gens, quelle est votre chanson préférée, tout simplement? Est-ce que vous pourriez nous dire vous-même quelle a été votre chanson préférée ou les chansons qui ont consteller votre univers musical, qui ont participé à la formation de vos goûts musicaux.
Je crois qu'effectivement, j'aurais, si je m'étais retrouvé moi-même à la place d'être interviewé sur cette question, je ne sais pas du tout comment j'aurais pu répondre à cette question spécifiquement. Dans la mesure où, bon, je n'ai pas une chanson préférée, mais pour le coup, des constellations très très diverses en fonction des moments de ma vie. J'ai en général ce rapport extrêmement... je pourrais par exemple citer, je ne sais pas, pendant l'adolescence, je citerais sans doute, je ne sais pas, Penny Royalty de Nirvana. Mais ce n'est pas du tout ma chanson préférée, c'est qu'il y a vraiment à des moments des chansons qui ont cristallisé certaines choses. Et évidemment, ensuite, la question des chansons qui m'ont influencé aussi dans ma manière de composer des chansons. Mais en général, j'ai un rapport à l'écoute très compulsive. C'est-à-dire que quand je trouve une chanson qui me plaît, je vais l'écouter en boucle.
Cette fameuse écoute en boucle, voilà. qu'on répète.
Et qui est une espèce de... Donc, même quand je l'arrête, donc, j'arrête de l'écouter, elle continue à tourner en boucle dans ma tête pendant un certain temps. Du coup, je la réécoute pour que ça arrête de tourner dans ma tête, et ainsi de suite. Et puis, il y a un moment où ça s'épuise, en général. Et c'est du coup une autre chanson qui vient prendre la place. Mais non, effectivement, sur cette question de quelle est ma chanson préférée ou quels sont mes artistes de chansons préférées, je n'y avais pas réfléchi à l'avance et j'aurais du mal à donner une réponse à cette question.
La question que vous posiez justement aux gens dans les rues de Rennes.
Je sais que enfant, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la musique classique, même d'ailleurs au niveau du chant. Des choses comme la flûte enchantée, par exemple, qui est encore aujourd'hui pour moi un opéra que j'aime beaucoup. Et puis à l'adolescence, toute la découverte en fait d'abord du rock, plutôt du rock ancien. J'avais un très bon ami dont le père avait une discothèque extraordinaire et qui nous a permis de découvrir. On écoutait beaucoup Pink Floyd, enfin tout le rock progressif avec beaucoup de synthés, des choses comme ça. Et puis la période où est apparu Nirvana, qui a été effectivement une très grosse claque, quelque chose que j'écoutais beaucoup dans mon Walkman à l'époque, pour revenir sur la question de comment est-ce qu'on écoute la musique. Et Nirvana, par exemple, c'est un groupe auquel je suis beaucoup revenu ensuite quand je me suis intéressé à cette question de la chanson. Parce qu'il y a
quoi ?
Ben, en quoi c'est... En fait, il y a vraiment quand j'écoute, pas forcément les morceaux les plus punk ou les plus... je sais plus quel...
Plus grunge.
Grunge, voilà. De Nirvana avec des guitares très saturées, mais vraiment quand, notamment dans le Unplugged, on entend vraiment le squelette de la chanson. Il y a quelque chose de très pur, à la fois dans son usage d'une typologie d'accords, d'une espèce de vocabulaire d'accords qui lui est très spécifique, et d'une manière de poser la mélodie vocale à un endroit qui est toujours un petit peu décalé, qui est toujours légèrement discordant par rapport à la suite d'accords. Et donc c'est en cela, il y a quelque chose de très pur dans les chansons, et qui en fait quelque chose d'assez intemporel. Et parmi les
quasiment que des tubes, hein, pour le coup, chez Nirvana, enfin ce qu'on appelle des tubes, mais des ritournelles ou des albums entiers sont des tubes.
Oui, tout à fait. Et il y a un j'étais un peu revenu à Nirvana en découvrant en fait une reprise, parce que la question de la reprise m'intéresse beaucoup, mais en découvrant une reprise de Patti Smith qui reprend Smells Like Teen Spirit, qui est une reprise absolument extraordinaire, vraiment qui est une très très belle reprise entre guillemets, la vieille Patti Smith, qui, je ne sais plus en quelle année, 2010 ou 2015, fait un album de reprise dans lequel elle rend hommage à différentes figures, dont Kurt Cobain. Et pour moi, il y avait quelque chose vraiment d'une sorte de chemin dans le fait que Patti Smith reprenne Nirvana, Kurt Cobain, si je ne dis pas de bêtises, il avait rencontré Burroughs, le vieil écrivain de la Beat Generation. Il y avait comme ça une sorte de phénomène de transmission au sein du tissu culturel de la contre-culture américaine, en quelque sorte, comme une sorte de chemin qui se jalonne. Et il y a un texte qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelle « Three Songs » de Gril Marcus, si je ne dis pas de bêtises, qui justement essaie de comprendre comment est-ce qu'une chanson, c'est jamais qu'une sorte de point de maille dans un tissu beaucoup plus large. Comment est-ce que des chansons, par exemple, se sont transformées. Et dans la discographie de Nirvana, il y a une chanson qui est « My Girl », qui au départ est un vieux standard de blues que Nirvana a repris à leur sauce. Et quand on entend Nirvana chanter cette chanson, on a l'impression que c'est exactement une chanson de Nirvana. Or, c'est une très vieille chanson. My girl, na, na. Et c'est vraiment, pour le coup, les accords du blues. Donc, dans ce livre, Three Songs, je crois qu'il y a une chanson de Dylan, il y a une chanson de... Il essaye à chaque fois d'effectuer cette espèce de chemin qui est la manière dont une chanson n'est pas uniquement un point du temps, mais un maillage extrêmement vaste qui permet d'attraper des questions sociales, politiques, culturelles beaucoup plus larges. Et je trouve ce phénomène aussi... voilà, c'est pas uniquement la chanson en tant qu'objet musical, mais c'est aussi comment est-ce que la chanson nous raconte quelque chose de ce qui fait société, nous raconte quelque chose de ce qui peut aussi... Il y a des chansons de révolte, il y a des chansons de colère, il y a des chansons qui structurent un tissu social. Et du coup, qu'en est-il de ces objets aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils continuent à opérer aussi dans la société, au travers, par exemple, d'un phénomène aussi comme le hip-hop, qui est aujourd'hui un des phénomènes dominants dans l'industrie musicale, que j'écoute également beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, j'ai beaucoup dérivé à partir de la question de départ, qui était quelles étaient mes chansons préférées, mais il y a vraiment des étapes. Et dans ma vie d'adulte, par exemple, il y a une autre étape qui m'intéresse, là encore en me prenant moi-même comme cobaye, c'est en devenant père, en ayant des enfants, y a un autre rapport à la chanson qui aussi se met en place, qui est d'une part la question de qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que je fais écouter à mes enfants, mais aussi de qu'est-ce que mes enfants vont me faire écouter. Et on parle souvent de cette... comment est-ce que les parents, il y a un moment où ils sont plus en phase avec la musique que leurs enfants écoutent. Moi, comme j'ai une approche entre guillemets de créateur sonore, c'est-à-dire que le son m'intéresse, donc j'écoute beaucoup de choses et je suis absolument ravi d'écouter les choses que mes filles me font découvrir et que je ne connaissais absolument pas. Puis il y a des choses qu'on a découvert ensemble, et ça c'est par exemple les Beatles. C'est un groupe où j'étais passé complètement à côté moi-même en tant qu'adolescent. J'écoutais plus Pink Floyd ou des choses Led Zeppelin. Les Beatles, j'écoutais pas. Et en fait, il se trouve que en écoutant une chanson des Beatles lorsque mes filles étaient toutes petites, elles ont adoré. Et du coup, je me suis intéressé aux Beatles très tardivement. Et alors là, pour le coup, on a parlé de Nirvana sur le côté très pur de la structuration du rapport instrument-voix. Dans le cas des Beatles, c'est encore autre chose, puisqu'il s'agit vraiment de... Comment est-ce que d'un groupe qui au départ était un groupe de rock, guitare, basse, batterie, voix, comment est-ce qu'ils ont transformé ça en un groupe dont les compositions de musique pop sont extrêmement complexes. Et ça, je l'ai découvert donc très tardivement, l'art de la composition des Beatles, par le biais en quelque sorte de l'écoute de mes filles qui adoraient ces morceaux. Donc on a regardé, il y a par exemple le documentaire qui est sorti il y a quelques années de Peter Jackson, qui a récupéré en fait tout un tas de bandes d'archives où on voit les Beatles en studio. Et alors ça, c'est vraiment un matériau que j'aimerais pouvoir intégrer à tes chansons comme objet à part entière. Il y a un moment par exemple qui est génial, où on voit McCartney en fait qui attend Lennon, qui est encore en retard, parce qu'il n'arrêtait pas d'arriver en retard aux sessions d'enregistrement, et donc ils l'attendent, et McCartney est tout seul sur sa basse, il cherche, et puis il y a une espèce de riff qui commence à apparaître, mais vraiment, genre il y a 2-3 accords, et lui il murmure un truc, il fait et on voit la chanson, mais littéralement sortir de rien, qui est Get Back, qui va devenir ensuite un tube mondial. Et il y a un autre film, là pour le coup c'est pas les Beatles, c'est les Rolling Stones, qui est le film de Godard, où Godard était allé en studio pour filmer les Rolling Stones, et on voit apparaître vraiment des tout premiers riffs la chanson Sympathy for the Devil. Et c'est pareil en fait, cette espèce de moment où je sais plus si c'est Jagger ou Richards gratouille un truc, gling 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 gling, il y a 3 accords et il y a Sympathy for the Devil qui se construit, puis ensuite ils ajoutent les percussions et puis ensuite les backing vocals et ensuite, et je crois que au fond c'est, en tout cas dans la manière dont je suis actuellement en train d'essayer de composer des chansons, fondamentalement c'est quelque chose de cet ordre là qui m'intéresse. Il y a une phrase de Yankelevitch qui a beaucoup travaillé sur la musique, et il me semble qu'il parle de Moussorgsky, et il dit si on savait ce qui s'est passé dans la tête de Moussorgsky lorsqu'elle a composé le prologue de Boris Godounov, on saurait tout sur le mystère des commencements, quelque chose comme ça, enfin je sais plus quelle est la phrase exacte, mais c'est quelque chose de cet ordre là à quel moment il n'y a rien, et puis à un moment il y a quelque chose, et ce quelque chose il va devenir un magnifique morceau de musique ou une magnifique chanson qui va ensuite accompagner des générations et des générations d'auditeurs et d'auditrices.
Très bien.
Ah oui, j'ajouterais peut-être une dernière chose pour clore sur voilà, ce chapitre qu'il ne fallait pas ouvrir, de quelles sont vos chansons préférées, parce qu'on n'en aura jamais fini. J'ai évoqué les Beatles. Il y a deux autres artistes, un groupe et une artiste que je voudrais aussi citer pour des raisons aussi assez proches. Donc il y a Radiohead qui pour moi aussi a joué un rôle très important, un peu similaire aux Beatles. C'est-à-dire comment est-ce que d'un groupe qui fait des morceaux assez standards, il y a un moment où ils décident de prendre une forme de liberté artistique et de se déplacer d'un phénomène populaire vers une musique quasiment expérimentale. Quand je dis quasiment, c'est que c'est pas non plus de la musique expérimentale, mais de s'émanciper en tout cas du carcan commercial auquel ils étaient assignés au départ pour inventer une musique qui leur est absolument propre. Donc c'est vraiment le cas des Beatles, mais encore une fois qui est un groupe qui a duré très peu de temps puisqu'ils se sont séparés assez prématurément, et Radiohead qui continue encore aujourd'hui à sortir des albums moi qui ont beaucoup marqué mon approche musicale. Et une dernière chose, c'est voilà, pour parler de les Beatles, je les ai découverts avec mes filles, et pour le coup c'est aussi avec mes filles que j'ai découvert une artiste qui s'appelle Billie Eilish, donc qui est aujourd'hui une star internationale, et elle a aussi ce truc très particulier. Donc elle compose avec son frère, Phineas, et ils ont beaucoup de vidéos, en fait, où de manière, là aussi, extrêmement, on parlait tout à l'heure de candeur, dans le sens vraiment du plaisir des commencements, où ils expliquent tous les deux comment est-ce que, par exemple, ils ont composé Bad Guy, qui est cette chanson qui a été un tube énorme, et on les voit vraiment comme des enfants, littéralement, donc c'est un frère et une sœur, donc quelque chose de ça. Comment est-ce qu'ils ont trouvé ce son-là? Comment est-ce qu'ils ont trouvé cette mélodie-là? Comment est-ce que ce mot-là est apparu? Comment est-ce que, pendant des mois, parce qu'en général, le processus de création d'une chanson, c'est un processus qui peut être très long. Enfin, dans leur cas, en tout cas, c'est un processus qui est très long, qui peut durer un an, où ils vont faire une session d'une semaine, et puis laisser le truc reposer, et puis le reprendre 6 mois plus tard, et ajouter de nouveaux éléments. Et c'est très réjouissant de les voir expliquer comment est-ce que leurs morceaux prennent forme, parce qu'il y a cette dimension vraiment de jeu qui n'a pas disparu, et ils ont beau être l'un et l'autre d'immenses stars internationales et vendre des millions d'albums, il y a toujours cette espèce de plaisir à « bah tiens, je prends le micro, je le pose à cet endroit-là, je voudrais obtenir tel effet, donc je vais le passer dans le logiciel pour saturer les basses, pour ceci, pour cela. Mmh. » Et à partir d'une base qui est sans doute une base composée juste avec une guitare, on a des morceaux qui sont extrêmement produits, extrêmement raffinés. Donc c'est aussi une artiste que j'ai découvert par le biais de mes enfants et que j'écoute beaucoup et qui m'intéresse par rapport à cette question plus générale des chansons aujourd'hui.
Ce qui vous a mené aussi dans votre travail à pratiquer cette émergence-là. Vous en parliez à travers ce travail avec Paul Pi, notamment dans ce spectacle. Et à travers cette résidence à la maison sur Pilotis, à Aide-Bazouge. Me semble-t-il, de cette résidence-là, a émergé un certain nombre de morceaux. Est-ce que vous pourriez nous en parler avant de nous les jouer?
Du coup, voilà, y a eu un certain nombre de morceaux qui sont apparus lors de cette résidence à la maison sur Pilotis, et du coup cette petite forme que j'évoquais tout à l'heure qui à vrai dire est un peu l'objet qui m'intéresse et que j'aimerais avoir l'occasion de reprendre par la suite, qui est cet objet où j'entremêle quelque chose qui est de l'ordre vraiment musical et quelque chose qui est de l'ordre plus de l'analyse ou de la conférence. Mm-hmm. Où j'explique justement comment est-ce que j'ai composé certaines de ces chansons. Voilà, il y a plein d'aspects différents que j'essaie d'aborder, mais m'intéressait aussi dans cette petite forme le fait de pouvoir basculer d'une voix entre guillemets qui explique à une voix qui chante, donc de prendre l'instrument, d'effectuer ce geste, je vous parle de ça, mais maintenant je vais vous montrer. Mmh. Qui là un geste aussi très chorégraphique, puisque c'est un geste qui a été entre guillemets inventé, mais qui a particulièrement bien mis en valeur le chorégraphe Jérôme Bell dans une pièce qui s'appelle Véronique Doineau, où on a une danseuse en fait qui nous explique. Elle nous dit, je m'appelle Véronique Doineau, je suis danseuse à l'Opéra de Paris. Et à chaque fois, en fait, elle explique quelque chose. Elle a dansé Gisèle, par exemple, ou le Lac des Cygnes. Et ensuite, elle nous le montre. Elle dit, je vais vous montrer. Et ce geste d'expliquer puis de faire, cette espèce de va-et-vient, est un petit peu, moi, ce qui m'intéresse dans cette forme que j'avais montrée à la maison sur Pilotis. Qui était vraiment une sortie de résidence, donc j'avais entre guillemets pas du tout encore les capacités, on va dire, à la fois de chant et de jeu pour le faire correctement. Et donc c'est quelque chose que j'aimerais reprendre en prenant davantage de temps pour répéter ces différentes chansons. Et donc il y avait eu ces chansons, les chansons de la pièce Le Renard de l'Histoire, puis les chansons de la Maison sur Pilotis, qui forment deux ensembles. Et puis il y a toutes les chansons que j'ai composées depuis, mais voilà, c'est encore un chapitre en train de s'écrire en quelque sorte.
Eh bien, nous allons pouvoir écouter quelques morceaux de votre composition dans cette émission Résonance, émission spéciale justement.
Eh ben, du coup, je vais procéder de manière un peu chronologique, on va dire, dans les différentes strates de ces chansons. Et pour commencer, en fait, la première que je vais chanter, qui s'appelle « I want to get off », c'est une chanson que j'ai commencé à composer, donc je crois que j'ai déjà un peu parlé de ce processus qui a mené à la création de la pièce « Le Renard de l'Histoire ». Et je suis arrivé sur la création alors que les interprètes avaient déjà travaillé avec le metteur en scène. Donc ils avaient déjà travaillé avec de la musique. Donc la première question, c'était un petit peu de quelle musique utiliser. C'était pour une séquence de danse, pour remplacer la musique avec laquelle ils avaient travaillé. Je crois que c'était Bach en plus. Donc c'était un challenge pas évident à relever. Et coup, voilà, je me suis, comme je l'avais raconté, enfermé dans la cave de la maison où on était en résidence avec la guitare que m'avait prêtée le régisseur lumière du théâtre de Chaumont. Et donc je me suis mis à la cave pour pas déranger et j'ai commencé un peu à gratouiller, ce qui est une manière de faire. Et puis je suis arrivé à une mélodie qui au départ était plutôt pensée pour être une mélodie instrumentale et sur laquelle assez vite sont venues se poser des paroles. Ce qui était intéressant avec le processus de cette pièce, c'est que il y avait vraiment un horizon qui était cette question de la hantise et qui du coup donnait une sorte de cadre de composition. Et du coup, cette question de la hantise et des fantômes a un peu donné un cadre de composition qui m'a orienté dans l'écriture des paroles. Alors ça, c'est une question sur laquelle je vais peut-être revenir au cours de ces différentes chansons. Mais les premières chansons que j'ai écrites, je les ai écrites en anglais. Pour moi, l'anglais était une manière de me décaler un petit peu de la pesanteur du sens et du coup de pouvoir avancer avec la musicalité des mots sans être prisonnier sans être trop prisonnier de ce qu'il raconte. Voilà, donc I want to get off. Je suis arrivé du coup le lendemain avec cette mélodie, puis le surlendemain avec la mélodie et des paroles, et j'ai pu tout de suite en fait les proposer aux interprètes pour qu'ils puissent essayer de les chanter. Donc c'est une chanson qui a été composée au départ pas vraiment pour ma voix, mais dans l'idée de vraiment de faire chanter les interprètes. Et par ailleurs, comme ils étaient trois au plateau, cette chanson, je l'ai conçue un petit peu comme un canon. Donc je vais voir si je passe ensuite à la deuxième partie de la chanson qui est explicitement faite pour être chantée en canon. Et du coup, il y a très peu d'espace entre les différents couplets, ce qui la rend assez difficile à chanter quand on a une seule voix. I want to get out of this stage to be stone and snow, surrender to the white, the blue, the red, the green. I want to get out of this floor to deep into earth and bury my thoughts in the blue. I want to get out of this flesh to be less than a ray of light on the ground, the snow, the sea, the clouds. Light, let me dwell in the dark, in the ground we all are, but a wandering ghost running the holes in the cracks of the story, running the holes in the cracks of the story it's been told, running the holes in the cracks of the story. Of the story, run. Donc voilà, cette chanson, elle était vraiment faite pour, sur ce run in the holes, in the cracks of the story, pour qu'il y ait une sorte de canon comme ça, avec, où les voix étaient reprises les unes après les autres. Et lors du processus de cette pièce, le renard de l'histoire, j'ai écrit une dizaine de chansons en tout. Au final, il en reste deux, principalement. Une que je ne vais pas jouer parce qu'elle était vraiment conçue pour la voix d'une autre interprète, Pauline Brun, qui énonçait une sorte de ritournelle, une liste de choses. Et une deuxième qui s'appelle « The Stars Are Missing » et que les interprètes chantent a cappella à la fin de la pièce. Mais du coup, je vais enchaîner avec cette chanson qui s'appelle « The Stars Are Missing » et qui est finalement, tout au long de ce processus à la fois chorégraphique et théâtral, restée comme une sorte de point autour duquel s'articulent plusieurs passages importants de la pièce. Et du coup, qui était au départ vraiment une chanson de folk à la guitare. Et si on a le temps, peut-être que je pourrais vous faire écouter, parce que c'est aussi un des processus qui m'intéresse beaucoup dans ce mode de composition des chansons. Comment est-ce qu'une chanson qui est inventée à la guitare au départ, on peut passer aussi à un arrangement complètement différent. Donc pour la pièce, j'avais d'abord composé la chanson à la guitare. Ensuite, les interprètes la chantent a cappella et ils terminent sur une séquence de danse un peu contemplative et méditative où le morceau est repris dans une version complètement électro, très planante et qui produit une espèce d'effet de vertige qu'on appelait le pendule, non, le cadran, et où les lumières en fait se mettent à tourner autour du plateau.
The stars are missing for the night. The cloud is nothing but a cloud. We'll go without, don't need light. We'll go without, don't need eyes. Words are missing for the night. The mouth is nothing but a cloud. We'll go without, we just need sight. There's shattered words inside our mind. Frame is missing for the night. The cloud is nothing but a cloud. We'll go without, don't need knives. There's broken bones under the sky. Stars are missing for the night. We'll be the light that lies inside. We'll be the moon without the sky. We'll be the stars inside our hands. Be the body without weight. We'll be the veins inside our brains. The stars are missing.
Voilà, donc maintenant on va écouter la version électro que je suis en train de monter. C'est un peu du bricolage parce que j'ai utilisé un enregistrement des voix a cappella des interprètes au plateau, mais il faudrait que je refasse cet enregistrement au propre. Et j'ai collé du coup ces voix sur le son qui
qui résonne à la fin de la pièce. Et je précise que cet extrait que nous allons écouter n'est pas encore mixé, il n'est pas encore terminé.
The stars are missing for the night. A cloud is nothing but a cloud. We'll go without, we don't need lights. We'll go without, we don't need eyes. The words are missing for the night. The mouse is nothing but a cloud. We'll go without, we just need sighs. The shattered words inside our minds. The frame is missing for the night. A cloud is nothing but a cloud. We'll go without, we don't need nights. We'll go without, we don't need eyes. The stars are missing for the night. We are the light that lies inside. We are the moon without the sky. We are the stars inside your hands. The stars are missing. The stars are missing. We are a new body without weight. We are the voices and the waves.
Stars are missing for the night.
Voilà, donc on peut voir comment est-ce qu'on peut transformer une chanson jouée à la guitare de folk assez classique en chanson électro qui sonne évidemment de manière complètement différente.
Et du coup, je passe un peu à la deuxième strate qui a été donc cet ensemble de chansons qui ont été écrites dans la maison sur pilotis à Bazouge, Souédé, pendant ce temps de résidence où au départ je pensais travailler sur un manuscrit sur lequel je travaillais à ce moment-là.
et où j'avais amené ma guitare. Et en fait, comme Bazouche Souédé, c'est pas très loin de chez moi, je faisais quand même de temps en temps des allers-retours en moto entre chez moi et la maison sur Piloti. Et dans mon casque de moto, je chantonnais en fait des airs. Et il y a vraiment ces deux modes de composition qui sont comment est-ce que, en gratouillant la guitare, comme j'en ai parlé déjà, il peut y avoir une mélodie qui vient avec l'instrument sur lequel vont ensuite venir se poser des mots. Et à l'inverse, il peut y avoir vraiment une mélodie vocale très forte qui s'impose. Et après, il s'agit de trouver avec l'instrument comment produire une mélodie qui vienne s'adapter et enrichir la mélodie vocale. Donc là, dans le processus des chansons qui ont été écrites à la maison sur Piloti, il y en a plusieurs sortes. Je sais que par exemple celle-là, qui s'appelle It's Time to Move On, au départ c'était une mélodie vocale, donc sur laquelle j'ai commencé vraiment. Et il y a une espèce de yaourt qui a commencé un peu à se mettre en place. Et les mots qui se sont collés, en quelque sorte, sur cette mélodie au départ, c'était « It's time to move on ». Et ce qui est, je parlais dans la partie de l'émission de ces processus et de comment est-ce que j'essaye d'être moi-même un peu une sorte de cobaye. Et ce qui est vraiment très intéressant à observer, c'est comment est-ce qu'une, quand une mélodie arrive, elle est vraiment comme un espèce de fluide, une fumée en fait. Donc il est quasiment impossible de l'attraper. Donc il faut la répéter et faire en sorte qu'elle ne s'enfuit pas. Donc ce qui peut arriver très souvent, tu as une mélodie dans la tête, et puis il suffit que tu penses à autre chose, et en deux secondes, paf, elle est partie. Et parfois, c'est une sorte de petit miracle, elle revient. Parfois, elle ne revient pas. Donc, il y a aussi une sorte de discipline. Dès qu'il y a une mélodie qui commence à s'imposer, à se la répéter dans la tête, si elle reste en mémoire, c'est qu'entre guillemets, elle est bonne. Elle est suffisamment accrocheuse pour s'accrocher dans un petit coin du cerveau. Et à ce moment-là, en général, de plus en plus, je l'enregistre pour pas non plus la laisser disparaître. Et donc il y a vraiment ce processus de ritournelle que peuvent nous faire les chansons qu'on écoute. Il y a plus ou moins en fait le même processus quand on compose, c'est-à-dire de se laisser envahir par ce refrain qui va venir coloniser en quelque sorte le cerveau. Et donc ça avait été le cas pour cette chanson. It's time to move on, we will cut our strings to the world. We won't answer to the phone, we don't give ourselves a new home. We just use our eyes to see what's left and imagine new constellation. Feel the rain inside our eyes and give shelter to what remains. It's time to move on. We will change the beat of our hearts. We won't compose a new song. We don't break the shape of our bones. We just use ourselves to feel what's left and recreate new constitution. Feel the soul that go insane and give a grave to what remains. It's time to move on. We will dive into the ocean. We won't leave no solution, we don't give an explanation. We just use our dreams to feel the nature and imagine new situation. Use our hands to craft desire and give shelter to what remains. It's time to move on. It's time to move on. It's time to move on. Il y a une autre chanson qui, elle, est plutôt apparue sur un air de guitare. Et sur les airs de guitare, en fait, il y en a de plusieurs ordres. Il y a les mélodies plus composées à la guitare et du coup qui rendent la possibilité d'écrire une mélodie vocale plus complexe, puisque quand on a une mélodie instrumentale plus complexe, du coup, ça nécessite souvent des ruptures au sein de la chanson, et d'autres qui naissent au contraire d'un matériau instrumental beaucoup plus simple, souvent composé de deux ou trois accords, et qui laisse en général une plus grande place à l'invention de la mélodie vocale. J'aime bien les deux, et on va dire que je suis encore en train de chercher aussi, non pas un style, mais des manières de faire ou des modes de création. C'est une chanson qui s'appelle I'm Starting a War. Je crois que c'est plutôt en jouant de la guitare que je l'ai composée. Je vais la chanter, puis je vais voir. I'm starting a war inside my mind. I'm starting a war that I can fight. I'm starting a war against my kind, and I still don't know which side I'm on. Je vais terminer en fait par une chanson que j'ai composée cette semaine avec cette idée de trouver une manière d'écrire en français. Donc, sachant que moi je suis poète, donc j'écris toujours en français. Et c'est cette espèce de passage entre la langue poétique où en général il y a une sorte de... de lignes qui orientent l'écriture, puisque j'écris en général vraiment sur des projets, que ce soit mon premier livre, Une fable humaine ou Aïboum, à chaque fois il y a vraiment une sorte de cohésion. C'est jamais un recueil de poèmes, c'est toujours vraiment une sorte d'ensemble qui se solidifie autour d'une question. Donc là, c'est comme si, quasiment comme si j'essayais d'écrire des poèmes uniques, en quelque sorte. Donc j'ai fait plusieurs tentatives, dont certaines que je ne vais pas faire écouter parce qu'elles sont très ratées, selon moi. Mais là, j'essaie de trouver une manière d'écrire en français aussi, en allant chercher par exemple, là, pour ce texte, ils sont venus entrer en friction l'univers poétique d'un poète qui a été très important dans mon cheminement de très jeune poète, vers 16-17 ans, un truc comme ça, qui s'appelle Edmond Jabès, que j'ai beaucoup lu quand j'étais adolescent. Et l'imaginaire qui vient plutôt du théâtre de Coltès, qui a une pièce qui s'appelle La nuit juste avant les forêts, qui est un titre que j'ai toujours trouvé absolument magnifique. Donc on va dire que ce texte qui n'est pas du tout fait, cette chanson qui n'est absolument pas terminée, je vais vous en jouer une espèce de brouillon, elle s'est en quelque sorte combinée à partir des éléments de la poésie d'Edmond Jabès et de ce que me faisait venir en tête la pièce de Coltès.
Tout s'est arrêté, retarde un peu, nuit au fond des forêts, s'enfoncent nos souvenirs et là. Regarde un feu, la nuit juste avant les forêts, plus de paupières ne ferment la roue, le ciel morcelé, nos astres ont dévoré la nuit.
Merci Gilles pour cette proposition et ces chansons que vous avez composées.
Merci.
Merci pour ces chansons. Donc, comment appelez-vous ce projet ?
Il y a deux choses. Il y a le projet en tant que tel que je l'ai fait à la sortie de la résidence de la maison sur Pilotis. Et donc,
tel que j'aimerais le reprendre ensuite, et qui s'appelle « Comment composer des chansons lorsqu'on n'est pas musicien et qu'on ne sait pas chanter ». Et c'est un petit peu ce que je viens de faire là, mais en allant un peu plus loin, et de manière plus, peut-être plus analytique aussi, cette question du rapport au français, du rapport à l'anglais, de comment est-ce que la mélodie se construit, du rapport entre la mélodie et l'arrangement, parce que la plupart de ces chansons, elles sont écrites à la guitare, il y en a quelques-unes aussi au piano, et ensuite elles sont aussi retravaillées avec la basse, il y a aussi quelques chansons directement écrites avec la basse, donc il y a ces deux instruments principaux qui sont la basse et la guitare. Donc là pour le moment, là j'ai fait vraiment une version guitare sèche on va dire, mais il y a aussi un vrai plaisir dans la composition de chansons qui est le deuxième, deuxième temps, qui est celui de, vraiment de la construction du morceau en tant que tel. Mais donc voilà, le projet, il y a ce projet d'explication, puis après il y a les projets de chansons. Voilà.
Ce que l'on vient d'écouter à l'instant, merci à vous de nous avoir proposé ces chansons voilà, dans leur fragilité aussi,
et
que vous ne niez pas, et qui sont en cours de construction aussi.
Tout à fait, oui.
Et puis par ailleurs, rappelons aussi cette émission que l'on pourra retrouver sur les ondes d'Univers tous les mercredis de ce mois de mars à 20h. Émission que vous aviez réalisée dans les rues de Rennes, intitulée Tes chansons, où vous alliez à la rencontre des habitants pour les faire témoigner avec un studio mobile construit pour l'occasion, où vous alliez les faire témoigner autour de leur rapport à la musique et plus précisément aux chansons. Merci à vous, Gilles Amalvi, pour cet entretien autour de votre rapport aux chansons et de ces chansons que vous avez produites à la suite justement de toute cette
Et que je suis venu jouer pour la première fois à la radio.
À la radio.
Merci à vous.
C'était en exclusivité pour le coup. Vous écoutez Résonance sur les ondes d'Univers 99.9 et le www.radio-univers.com. Salut.